Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru chez Erol en 2016, publier son livre à l'ère numérique est un guide pratique consacré au choix de publication ouvert aux auteurs par la transformation numérique. Elizabeth Sutton et Marie-Laure Caillé, toutes deux issues des métiers de édition, examinent trois voies principales: auto-édition, édition traditionnelle et formule hybride. Leurs propos ne consistent pas à désigner un modèle gagnant pour tous, mais à fournir une méthode de décision adaptée au projet, aux compétences et aux ambitions de chaque auteur. Le livre décrit aussi les opérations qui suivent écriture, préparation d'ouvrage, mise en vente, diffusion, promotion et choix de cadre juridique. Il associe une cartographie du secteur à des témoignages de créateurs issus notamment de la bande dessinée, du roman et des livres pratiques ou professionnels. Son genre est donc celui du guide stratégique pour auteurs. Sa finalité est de rendre les mécanismes de publication plus lisibles, tout en distinguant les possibilités concrètes offertes par le numérique des promesses commerciales excessives. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comparer les trois voies de publication sans les réduire à une opposition. Le point de départ du livre est une comparaison entre édition traditionnelle, auto-édition et solution située entre ces deux modèles. Cette comparaison importe parce que le choix ne détermine pas seulement la manière de fabriquer un livre, il répartit aussi les responsabilités, les coûts, le contrôle créatif, le temps de travail et les possibilités de diffusion. Dans une maison d'édition, l'auteur délègue une part importante des fonctions éditoriales et commerciales, mais il dépend de la sélection de l'éditeurs et de ses arbitrages. En auto-édition, il conserve davantage de maîtrise sur le calendrier, les formats et la commercialisation, tout en devant organiser ou acheter les prestations nécessaires. Le livre refuse donc une vision simpliste qui présenterait indépendance et accompagnement professionnel comme des options incompatibles. Il invite à examiner les besoins réels de chaque ouvrage. Un projet très spécialisé, un livre professionnel ou une œuvre destinée à un lectorat déjà identifié ne soulève pas forcément les mêmes contraintes qu'un premier roman. La valeur de cette approche réside dans le déplacement de la question. Il ne suffit pas de demander quel modèle est le meilleur. Il faut déterminer quel ensemble de moyens correspond au livre et à la situation de son auteur. Deuxièmement, comprendre la figure de auteur-entrepreneur et ses responsabilités concrètes. Les autrices emploient la notion de auteur-entrepreneur pour désigner les personnes qui abordent la publication comme un projet comportant des décisions éditoriales, techniques, commerciales et administratives. Cette expression ne signifie pas que chaque écrivain doit devenir spécialiste de tous les métiers du livre. Elle souligne plutôt que, surtout dans un cadre indépendant, l'auteur doit comprendre les tâches à accomplir et décider lesquelles il peut prendre en charge, déléguer ou faire contrôler. Le numérique facilite la création de fichiers, la vente en ligne et la promotion directe, mais il ne remplace ni le travail éditorial ni la nécessité de trouver des lecteurs. Le guide met ainsi en évidence une conséquence essentielle de l'autonomie: la liberté de publier accroît aussi la responsabilité de garantir la qualité et la visibilité d'ouvrage. Cette logique concerne la révision du texte, la conception du livre, la préparation des métadonnées, le prix, les canaux de vente et la communication. En présentant des retours de auteurs ayant suivi des parcours variés, le livre ancre cette notion dans des pratiques plutôt que dans un idéal abstrait. Il aide le lecteur à envisager son manuscrit comme une œuvre, mais aussi comme un projet de publication à organiser. Troisièmement, faire des modèles hybrides une stratégie de complémentarité. Un apport distinctif du livre est de ne pas enfermer un auteur dans une identité unique de publié traditionnel ou de auto-édité. Les parcours hybrides décrits renvoient à des auteurs qui combinent les deux modes selon les livres, les formats ou les objectifs. Cette possibilité modifie la lecture habituelle du secteur. Une publication traditionnelle peut être pertinente lorsqu'un accompagnement éditorial, une présence en librairie ou une force de diffusion particulière sont recherchés. Une publication indépendante peut mieux convenir à un projet dont l'auteur souhaite conserver la gestion, à une œuvre de catalogue ou à un livre visant une communauté définie. La complémentarité ne doit toutefois pas être comprise comme une recette automatique. Elle suppose de vérifier les droits cédés, les obligations contractuelles et la cohérence entre les différentes éditions d'une même œuvre. Le livre insiste surtout sur l'existence de passerelles nouvelles entre les pratiques, plutôt que sur une fusion indistincte des rôles. Cette position est utile dans un domaine souvent dominé par des discours de camp. Elle reconnaît les ressources propres des éditeurs tout en prenant au sérieux les capacités offertes par les outils numériques. Des lecteurs ont néanmoins relevé que le statut de auteur hybride et la fiscalité auraient pu recevoir un traitement plus approfondi. Limite importante pour une mise en œuvre administrative complète. Quatrièmement, passer du manuscrit au livre vendu par une chaîne de décision, le livre ne se limite pas à une analyse du marché, il propose un cheminement pour passer à action. Cette dimension pratique couvre la réalisation de ouvrages, sa mise en vente, sa promotion sur les réseaux sociaux et le choix de statut juridique. Le fil conducteur est que publier ne se confond pas avec rendre un fichier disponible. Un livre doit être préparé pour son support, présenté de façon claire et relié à des circuits par lesquels les lecteurs peuvent le découvrir et acheter. Les technologies numériques réduisent certaines barrières initiales, notamment grâce aux services de diffusion et à impression à la demande. Elles ne suppriment pas les choix de qualité ni les besoins de coordination. La promotion numérique, par exemple, ne produit pas mécaniquement une audience. Elle demande une présence adaptée au public visé et une information cohérente sur le livre. De même, le statut juridique ne constitue pas une formalité isolée, car il s'inscrit dans la façon dont auteur envisage revenus, prestations et activités. En réunissant ces sujets dans un même guide, les autrices montrent que la publication est une chaîne, un défaut dans la préparation. La distribution ou la communication peut limiter les effets des autres étapes. Cette vue ensemble favorise une planification plus réaliste. En dernier lieu, distinguer l'auto-édition des offres de publication facturées à auteur, le développement de auto-édition a favorisé l'apparition de nombreux prestataires plateformes. Le livre attire attention sur un risque de confusion entre auto-édition et compte d'auteur modernisé. La distinction est fondamentale pour un écrivain qui cherche à évaluer une offre. En auto-édition, auteur garde en principe la maîtrise de son projet et choisit les services dont il a besoin. Une prestation peut être légitime si son contenu, son coût et ses conditions sont clairement définis. En revanche, une offre payante ne garantit ni qualité éditoriale, ni diffusion réelle, ni vente. Le lecteur est donc invité à examiner ce qui est effectivement fourni, à comprendre qui prend les décisions et à ne pas confondre visibilité théorique avec accès effectif à un public. Cette mise en garde apporte un contrepoids nécessaire au discours selon lequel le numérique rendrait la publication facile par nature. Les outils peuvent rendre la mise sur le marché plus accessible, mais ils créent aussi un environnement commercial complexe. La démarche proposée repose sur une autonomie informée, identifier les compétences indispensables, comparer les prestataires et conserver une vision précise des droits, des coûts et des objectifs de publication. En conclusion, publier son livre à l'ère numérique s'adresse en premier lieu aux auteurs disposant d'un manuscrit et cherchant à comprendre les voies disponibles avant de signer un contrat ou d'investir dans une publication indépendante. Il sera également utile aux auteurs déjà engagés dans une démarche de auto-édition, car il replace les tâches de fabrication, de vente et de promotion dans une stratégie globale. Son bénéfice pratique tient à la réunion, dans un volume accessible, des décisions qui jalonnent le passage du texte au livre commercialisé. Son bénéfice intellectuel est de défaire une opposition trop rigide entre édition classique et publication indépendante. Là où de nombreux guides privilégient exclusivement les procédures d'auto-édition ou idéalisent la sélection par un éditeur. Celui-ci compare les modèles et donne une place centrale aux trajectoires mixtes des auteurs entrepreneurs. Les témoignages issus de plusieurs genres renforcent cette approche en rappelant que les contraintes varient selon le type de livre et le public recherché. Le lecteur doit néanmoins compléter cette lecture par des informations actualisées sur les plateformes, les contrats et les règles fiscales. Le livre datant de 2016 et certains lecteurs ayant signalé une couverture limitée de ces derniers sujets. Malgré cette réserve, il se distingue comme un guide de positionnement, il aide moins à appliquer une formule universelle quoi, construire un choix cohérent entre contrôle, accompagnement, investissement et diffusion. Si vous souhaitez soutenir Elizabeth Sutton, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.